Aujourd'hui, c'est topique sur la politique d'Aristote. Certains ont peut-être trouvé que c'était un peu trop long. Je crois qu'on ne perd pas son temps à regarder un peu la pensée d'Aristote, puisqu'elle a eu une telle influence sur saint Thomas, et que saint Thomas a fait le commentaire de la politique. Donc saint Thomas a considéré qu'il ne perdait pas de temps à commenter la politique d'Aristote. C'est quand même beau de voir ça. Et qu'il l'a commenté entièrement. Alors, si vous avez du courage, regardez le commentaire de saint Thomas de la politique d'Aristote. Et pour saint Thomas, c'est très important, vous comprenez, au point de vue théologique. C'est ce qui lui permet d'entrer dans le gouvernement divin. Il y a une transposition de la politique au gouvernement divin. De sorte que, je vous ai toujours dit, nous revenons aux Grecs parce que les Grecs donnent une formation plus profonde, je crois, que les modernes. Le père Ramirez, que j'ai bien connu à Fribourg, le père Ramirez m'a dit, il avait enseigné longtemps la philosophie, les Grecs nous introduisent dans les principes et les causes. Puis après, on a les grands théologiens qui se servent des Grecs, qui n'inventent rien. Puis à partir de Descartes, on a la pensée moderne. Et dans la pensée moderne, Ramirez avait tout lu. C'est un homme qui lisait énormément, qui travaillait comme un... Il m'a dit, je n'ai trouvé aucun principe. Il était terrible, c'était à la Bagnèse. Je n'ai trouvé aucun principe dans la philosophie moderne, depuis Descartes jusqu'à nos jours. Alors il y a des développements intéressants, mais qui ne forment pas. C'est rude, hein. Oui, je ne suis pas le seul à le dire. Il était bien plus farouche que moi, père Ramirez. Bien plus farouche. Ce qu'il ajoutait, ça ne m'a rien appris. Je ne dirais pas ça, moi, je n'oserais pas le dire, mais ça n'a rien appris, parce qu'il n'y avait pas de principe. C'est un peu vrai. Quand vous regardez attentivement, vous voyez que ils décrivent, c'est la description, mais ça ne donne pas une structure de pensée. Et au fond, c'est ce côté un peu terrible d'une pensée qui s'étend, mais qui ne creuse pas, qui ne pénètre pas, parce qu'il n'y a pas d'induction. Alors, il ne faut surtout pas dire ça quand on passe des examens. Mais ici, entre nous, les cours à d'intra, on peut dire ça. Alors, j'essaie de comprendre avec vous ce que nous avons dit par rapport à Aristote sur la politique. Voyez que le souci d'Aristote, c'est d'essayer de voir ce que la politique apporte à l'éthique. C'est son grand souci, je crois, de voir les liens entre les deux. Il est le premier à nous donner une éthique philosophique, ça c'est vrai, c'est-à-dire une réflexion, une analyse philosophique sur l'éthique personnelle, sur l'éthique individuelle, en voyant comment l'éthique a deux finalités, une finalité première, propre, l'amitié, et une finalité ultime, la contemplation. Alors, c'est très curieux parce que ça montre, vous voyez, dans cette analyse philosophique, comme deux niveaux. Un niveau de sagesse et un niveau de prudence. Donc, le niveau de sagesse, la contemplation. Le niveau de prudence, l'amitié. L'amitié va plus loin que la prudence, hein. puisque la prudence est au service de l'amitié. L'amitié donne une finalité, tandis que la prudence ne donne pas de finalité. Et Aristote va nous donner une troisième recherche, un troisième palier, le bien commun. Si toute l'action humaine pratique est ordonnée au bien, il est très important pour nous de saisir les différents niveaux du bien. Le bien finalise, donc joue le rôle de cause finale dans l'ordre pratique, dans l'ordre de l'exercice. C'est pour ça que la fin, c'est l'ultime des causes, c'est la cause des causes. Or, pour Aristote, il est le premier à avoir dit ça. Il est le premier, ça. Il faut reconnaître, au point de vue histoire de la pensée, que c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. L'éthique d'Aristote est reconnue universellement comme un des grands livres de philosophie. Alors, la finalité ultime, Dieu, que nous pouvons contempler. La finalité immédiate pour l'homme, le point de vue de l'amitié. Et le troisième bien, qui est le bien commun. Qui est un bien tout à fait particulier parce qu'il est immanent à la communauté. Et donc, d'une certaine manière, il n'est pas un bien qui finalise, puisque la fin est nécessairement quelque chose d'antérieur, de premier. C'est une fin effet, puisque l'homme réalise le bien commun. Alors vous allez me dire, dans l'amitié aussi, l'homme réalise l'amitié. Oui, mais l'homme ne réalise pas l'ami. Et l'ami transcende. Tandis qu'au contraire, le bien commun, il est fait par l'homme. C'est dans la coopération que l'homme réalise le bien commun. Et c'est ce qui fait comprendre la situation tout à fait particulière de la politique, et c'est ce qu'Aristote va essayer de mettre ça en pleine lumière, que la politique, d'une certaine manière, n'a pas d'autonomie par elle-même. Elle est en dépendance de l'éthique. Il faudrait voir le parallélisme, toujours pour entrer plus profondément dans la pensée d'Aristote, entre philosophie de la nature. Philosophie première, politique et éthique. Il y a quelque chose d'analogue, hein, point de vue situation épistémologique de la philosophie de la nature par rapport à la philosophie première et la politique. Par rapport à l'éthique. Vous voyez, on étudie le devenir. Toute la nature, c'est le devenir, puisque la nature est le principe du mouvement. On étudie le devenir des éléments. Et du tout. C'est ça qu'on étudie en philosophie de la nature. Dans la philosophie de la nature, il y a le decello, donc on étudie le ciel, on étudie les corps célestes, et on étudie les éléments. Et la nature, principe du devenir, principe du mouvement. La philosophie première, elle étudie ce qui est en tant qu'être. Découvre le point de vue de marquer du devenir. C'est le principe du devenir. Le principe est... Vous voyez qu'ici, au point de vue politique, il y a quelque chose d'analogue. C'est ça qui m'intéresse. C'est qu'au point de vue politique, on étudie le devenir de l'homme moral. On dit le devenir de l'homme moral, c'est toute éducation. La paille des gars. Et cette païdéia se fait, cette éducation se fait premièrement dans la famille. Et puis ce devenir de l'homme moral qui se fait dans la famille et l'éducation va impliquer le point de vue du gouvernement du tout. La communauté parfaite, c'est un tout. La cité, la police, c'est la communauté parfaite. Vous voyez, il y a deux devenirs. Hein. C'est assez curieux. Il y a le devenir des éléments et le devenir du tout. Vous retrouvez quelque chose d'analogue. Hein. Je fais le parallélisme. Hein. Comme toujours un parallélisme, c'est de trouver des analogies pour que nous comprenions mieux. Parce qu'il y a quelque chose qui me semble, ça me frappe, après avoir relu la politique, de voir ce point de vue des éléments et du tout, ça c'est très net en physique, et au fond on retrouve les éléments. L'élément il est donné dans la famille, c'est sûr. Hein. L'être embryonnaire commence, et puis nous avons le citoyen. Et vous avez dit, il y a toujours le parallélisme de savoir qu'est-ce que ça représente. Le citoyen embryonnaire dans la famille et le citoyen parfait. Ouvert. Et puis en éthique, qu'est-ce que nous avons ? En éthique, nous regardons l'homme moral dans sa double finalité, finalité de la contemplation et la finalité de l'amitié. Retrouvons là encore deux finalités, car là il y a deux racines. Là, il y a deux finalités, une finalité immédiate et une finalité ultime et de sagesse. Alors, vous voyez tout de suite l'analogie que je peux établir. Le devenir est à l'être comme le point de vue politique est à l'éthique. L'éthique saisit, elle, une fin propre de l'homme et une fin ultime. Donc on saisit des principes propres. Qui est le bien transcendant. Tandis que là, je saisis un bien, toute la politique est ordonnée à un bien, mais un bien commun, qui ne transcende pas, qui est immanent, qui se fait, et qui est le fruit même de ce gouvernement. Alors vous voyez qu'il y a quelque chose de semblable, d'une certaine manière, la philosophie de la nature, ne peut pas être une véritable philosophie sans la métaphysique. De même, la politique ne peut être une vraie philosophie, elle ne peut pas être une vraie philosophie sans l'éthique. C'est l'éthique qui me fait comprendre le point de vue, nous dirions aujourd'hui, vous comprenez bien, le point de vue de la personne. Ce n'est pas la politique. Mais évidemment, il y a un moment où les deux coïncident, c'est la bonté de la personne et la bonté du citoyen. Nous avions vu que c'était une des recherches tout à fait particulière d'Aristote, de retrouver que le bien comme que le citoyen est bon, le citoyen qui recherche le bien commun, et le citoyen bon. Comme personne qui a sa propre fin. Donc on peut dire que dans la perspective d'Aristote, et c'est ce qui me semble, que le point de vue de la politique recherche le conditionnement de l'homme dans sa recherche éthique. tout le conditionnement, exactement comme nous recherchons au point de vue philosophie de la nature, le devenir. Le devenir, c'est le conditionnement. Alors évidemment, ce n'est pas la même chose, parce qu'on est d'un côté dans la connaissance spéculative et de l'autre côté dans la connaissance pratique, mais il y a quelque chose de semblable. Si on essaie de comprendre la situation particulière de la politique et de l'éthique, on ne peut pas séparer la politique de l'éthique. C'est ça qui me semble le plus extraordinaire dans la pensée d'Aristote. On ne peut pas séparer la politique de l'éthique. Séparer la politique de l'éthique, c'est nécessairement supprimer le caractère philosophique de la politique. Ce serait retomber dans une perspective, comme nous allons le voir, une perspective purement artistique. D'Aristote à Machiavel. Et ça, alors, c'est très net. Et c'est très intéressant de devenir ça. Alors, ce serait intéressant d'étudier le phénomène analogue du côté de la philosophie de la nature. Et comme la politique pourra s'isoler complètement et se séparer complètement de l'éthique, et à ce moment-là, elle ne sera plus philosophique, elle ne deviendra plus qu'un art. Et si elle devient plus qu'un art, elle ne cherche plus du tout le point de vue du bon citoyen. Elle ne cherche plus que l'efficacité. Et elle ne cherchera plus que l'efficacité. La politique aujourd'hui, c'est ça. C'est un équilibre d'efficacité, avant tout, au niveau économique. Et c'est l'économie qui commande tout, parce que c'est le point de vue efficacité. Dans la philosophie de la nature, au fond, on peut dire que lorsque la philosophie de la nature se sépare de la philosophie première, elle risque à ce moment-là de ne plus être philosophique. Parce que le principe de la nature a quelque chose de beaucoup plus immanent dans le devenir que lorsqu'il s'agit de la philosophie première. La philosophie première, découvrant l'être en acte, se sépare de l'être en puissance. Et donc possède son autonomie propre par rapport au devenir. Tandis que la nature n'est jamais séparée du devenir. Et le principe de la nature, il est enfoui dans le devenir. C'est pour ça que la matière est le principe propre du devenir. Il y a des analogies semblables. Et c'est intéressant parce que comme des deux côtés, c'est le génie d'Aristote d'avoir distingué et découvert le statut de la philosophie de la nature face à Platon et le statut de la politique face à Platon. Il y a un renversement complet, si vous voulez. Platon, lui, considérait que le devenir est inintelligible. Il considère que la politique commande l'éthique. C'est très curieux quand vous regardez le parallélisme entre les deux. Vous voyez, au niveau de Platon, la philosophie de la nature, elle n'est pas intelligible. Et tout se ramène à la philosophie tout court des formes. Puisque la matière comme telle est non-être. Et donc il ne reste plus qu'une dialectique, des formes. Et quand il s'agit ici du rapport, c'est le rapport inverse. L'éthique est inclue dans la politique. Puisque la justice ne peut se comprendre que dans la justice par rapport à l'État. Et donc l'éthique individuelle est inclue dedans. Alors la seule chose qui sauve Platon, c'est évidemment le point de vue de la contemplation des formes idéales. Mais qui est un au-delà de l'éthique, un au-delà de la politique. Et qui est tout simplement rejoint de la philosophie première. Vous avez là, évidemment, un aspect unique de dépassement. Mais c'est très curieux de voir que c'est inversé quand on essaie de comprendre le rapport entre philosophie de la nature, philosophie première, politique et éthique chez Aristote, comparativement à Platon, vous voyez que c'est comme inversé. Alors, comprenons bien que lorsqu'il s'agit d'Aristote de saisir ce que c'est que la politique, La politique ne peut être saisie comme telle, et c'est ce, je crois que ce que nous devons essayer de comprendre, que enveloppée de l'éthique. Parce que la politique n'a pas de principe propre. Pas de principe propre, le seul principe qu'elle a, c'est le bien commun. C'est le seul principe. Alors on pourrait dire, elle a quand même un principe propre dans la bonté du citoyen. La bonté du citoyen fait partie du bien commun, puisque c'est la bonté du citoyen qui fonde l'harmonie entre les citoyens et qui fonde la concordia, qui fonde que les citoyens ont confiance les uns dans les autres. Alors vous allez dire, c'est un bien. Ah, attention, ce n'est pas un principe au sens fort, puisque c'est le fruit que le gouvernement réalise, de former des bons citoyens et de pouvoir réaliser un bien commun. Et ce bien commun, qui est le fruit donc, du gouvernement politique, ce bien commun n'est pas au sens fort un principe. Parce que c'est un fruit. Et donc, on est dans la recherche de loi et non pas de principe. Quel est le gouvernement parfait qui donnera les lois parfaites? Un conditionnement s'étudie par les lois et non pas par un principe. Alors c'est pour ça, vous voyez, si je regarde la politique d'Aristote séparée de l'éthique, je serais tenté de dire pas de philosophie politique. Si je vois au contraire la politique d'Aristote à l'intérieur de l'éthique, je dis une véritable philosophie politique, mais dépendante de l'éthique, puisque c'est l'éthique qui lui donne ses principes, et que la politique n'a pas par elle-même de principes propres. Elle nous met en présence du conditionnement humain au niveau de la famille et au niveau du tout. Et c'est ce conditionnement humain qu'on doit étudier. Et c'est ce qui explique, vous voyez, la très grosse difficulté de la politique d'Aristote. Ce n'est pas simple du tout, c'est même très complexe. Et il suffit de voir chez les commentateurs de la politique d'Aristote la manière dont ils essaient de comprendre l'ordre des questions, l'ordre des livres. Ils ne voient pas du tout qu'il y a une philosophie d'un type particulier, puisque c'est une philosophie qui est comme subalternée à l'éthique. C'est une philosophie qui n'a pas son autonomie, elle ne peut pas l'avoir, étant donné que son objet... C'est justement le point de vue du bien commun. Son objet, c'est la communauté parfaite, politique, la cité, qui, elle, est le fruit de l'activité humaine. Son objet, c'est quoi? C'est l'homme qui est éduqué. C'est la famille comme lieu d'éducation. Première, comme lieu de la première économie pour la survie. Mais la communauté comme telle ne peut pas spécifier une connaissance scientifique. Elle ne peut que nous montrer un conditionnement. De sorte que cette philosophie reste très imparfaite et elle ne peut pas atteindre plus. Autrement, ce ne serait plus une philosophie politique pratique. Ça reste très imparfait. Ça explique, vous voyez, tous ces passages que nous avons essayé de voir et sur lesquels j'ai insisté un peu parce que ça me semble des passages particulièrement intéressants pour étudier ce que c'est que la politique d'Aristote, les liens entre celui qui commande et celui qui obéit, celui qui exécute, le maître et l'esclave. Quand je regarde l'ensemble de la politique d'Aristote, je situe bien le maître et l'esclave comme le fondement du bien commun, puisque c'est la première coopération. C'est la coopération fondamentale, celui qui commande et celui qui exécute, le maître et l'esclave. Mais vous comprenez bien qu'Aristote ne nous donne pas des principes. Il regarde une situation de fait. Je ne sais pas ce que fera Aristote aujourd'hui pour une politique. Il regarderait une situation de fait. Il ne donne pas, si vous voulez, quelque chose qui serait comme un idéal. Non, concrètement. Alors, il essaie, étant donné cette situation, d'améliorer, de faire que ce soit un bien commun et pas seulement l'efficacité. Un bien commun qui est la concorde des citoyens et qui permet et de maintenir une éducation. Parce que si l'éducation n'existe plus, le lendemain sera terrible. La politique aura brisé l'homme par l'efficacité, par le pouvoir. Or, il faut au contraire que la politique soit au service de l'homme pour permettre à l'homme d'être un homme parfait, un citoyen bon et un homme parfait, capable d'aimer, de fonder une famille et capable de contempler. Alors c'est ça qui est très curieux, c'est que la politique, elle fait, par l'éducation, que les hommes puissent sortir de la communauté politique et devenir indépendants par rapport à la communauté politique. Donc la politique se tue elle-même. Vous voyez ? Et c'est ça la grandeur de la politique. C'est d'accepter d'être un service. Et d'accepter que le service de la politique fait que l'homme va dépasser la politique. Vous voyez la différence entre la communauté animale ? Chez l'animal, la communauté des éléphants, puisqu'on avait parlé de la communauté des éléphants, la communauté des éléphants n'a qu'un seul désir, c'est que la communauté des éléphants continue. La communauté des éléphants est ordonnée à la survie de l'éléphant. Et pas du tout que l'éléphant sorte de la communauté pour devenir un contemplatif. Et en devenant un contemplatif, il est indépendant, il est au-delà de la communauté. Et donc la communauté a cette grandeur, et ça je crois que c'est un des aspects très étonnants de la politique d'Aristote, la politique a cette grandeur d'accepter que son service fasse que l'homme dépasse la politique et soit libre de la politique. C'est donc un service complètement gratuit. C'est juste l'inverse des hommes politiques qui s'attachent à la politique pour rester le plus longtemps possible au pouvoir. C'est juste l'inverse. On est au service de la politique, on est au service de l'homme pour permettre à l'homme d'atteindre sa finalité. Et en atteignant sa finalité, on sait qu'il va être libre à l'égard du point de vue politique. C'est peut-être ça, voyez, la grandeur de la politique d'Aristote. C'est d'avoir accepté d'être un service. Ce qu'on ne voit absolument pas chez Platon. On le voit un peu, mais beaucoup moins. D'accepter d'être au service de l'homme pour que l'homme puisse atteindre sa fin. C'est ça le point de vue politique. Et ce point de vue-là ne peut exister que si on comprend que la politique est portée par l'éthique. Et que la politique est philosophique parce qu'elle est portée par l'éthique. Et donc on est devant une situation d'une philosophie très très spéciale qui d'une certaine manière ne peut pas se séparer de l'éthique. Alors le lien entre politique et éthique est plus fort que le lien entre philosophie de la nature et philosophie première. C'est normal, puisqu'on est du côté des finalités. Tandis que là, on est du côté des principes et des causes, au niveau spéculatif. La nature a sa structure propre. Elle n'est pas seulement du conditionnement. Le devenir a sa structure propre et n'est pas seulement disposition à l'égard de l'être. La nature a sa finalité propre. Donc elle n'est pas seulement disposition par rapport à la philosophie première. Tandis que la politique, elle, est beaucoup plus dépendante de l'éthique. Il y a une dépendance beaucoup plus grande. Alors ça, ce serait très intéressant d'étudier, de voir ça au point de vue critique. Parce qu'on verrait comment, dans l'ordre pratique, les dépendances sont beaucoup plus étroites. Parce que c'est la finalité qui prime. Alors que dans l'ordre spéculatif, c'est la cause formelle qui commande tout. Et la cause formelle, elle, les causes formelles peuvent se hiérarchiser. La cause formelle, nature-forme, a sa structure propre. Son totienein, sa quidité propre. Distincte de l'ousia. La nature est distincte de l'ousia. Elle n'est pas l'ousia. Elle est distincte de l'ousia. Elle a sa quidité propre. Comme l'ousia, sa quidité propre. Tandis qu'au contraire, au niveau pratique, on est dans l'ordre des moyens et de la fin. Des moyens intermédiaires, ou des fins intermédiaires, si vous voulez. Des moyens intermédiaires qui ont une certaine structure, mais qui sont beaucoup plus radicalement dépendants de la finalité. Donc, il y a là quelque chose d'intéressant pour ceux qui s'intéressent à la philosophie pratique d'Aristote. Éthique et politique ne peuvent pas se séparer. Philosophie première et philosophie de nature se distinguent dans leur structure propre. Et cependant, il y a une certaine dépendance de l'une à l'autre. La philosophie de la nature n'est parfaitement philosophique que grâce à la philosophie première. Alors, si vous voulez, maintenant, nous allons passer à quelque chose de tout à fait différent. Et avant de passer à Machiavel, ça va vous intéresser, c'est toujours intéressant de rencontrer Machiavel, je vais vous dire un tout petit mot, en vous renvoyant à l'étude dont je me sers, parce que je crois qu'elle est... C'est encore la meilleure. J'ai consulté des gens compétents dans cette matière, parce que c'est toujours dans des matières qui sont assez difficiles. Le livre de « Histoire de la pensée politique » de Jean-Jacques Chevalier. Je crois que c'est une histoire, hein, c'est pas de la philosophie. Et quand on lit ça, on aurait envie de tout reprendre au niveau philosophique. Je crois que ça n'existe pas, une grande topique de la politique pour nous amener progressivement à faire une philosophie politique aujourd'hui. Ce qui est très difficile. Parce que où on revient toujours au bien commun d'Aristote, ça c'est le leitmotiv de tous les gens bien, le bien commun d'Aristote, il faut maintenir le bien commun à tout prix. Alors on voit très très bien ce bien commun, c'est la panacée universelle. On voit qu'ils n'ont jamais réfléchi sur le bien commun, ça fait rien. Ils le répètent, hein, parce qu'ils n'ont jamais saisi la hiérarchie des trois biens. Alors que pour Aristote, c'est net. Hein. Le bien commun arrive en troisième position. Il faut hiérarchiser ces trois. On ne peut pas comprendre ce que c'est que le bien commun. Alors, si vous séparez le bien commun de l'éthique, vous voyez, vous faites le bien commun comme si ça finalisait la politique et c'est le bien commun qu'on doit voir. Attention, attention. Le bien commun médiatise les deux autres finalités au niveau communautaire, au niveau du tout de la cité. Puis ce qui est très difficile, vous comprenez bien, c'est que toute la politique d'Aristote est centrée sur la communauté politique qui a son autarkeia, qui a son indépendance, son autonomie. Aujourd'hui, où est la cité? Cherchez-la bien. La cité, où est-ce que ça existe? Est-ce que c'est le département? Est-ce que c'est la province? Passage de la province au département. Et est-ce que c'est plus loin encore? Qu'est-ce que ça correspond? On ne voit plus du tout. Et pour la pensée d'Aristote, c'est très très net. C'est normal. On fait la politique d'une situation actuelle de l'humanité. On ne peut pas faire autrement. La politique fait nécessairement intervenir l'histoire de la pensée politique. C'est pour ça que lorsqu'il s'agit d'établir une philosophie politique, l'aspect topique est beaucoup plus important en politique que quand il s'agit de la philosophie première. Dans la philosophie première, la topique est très importante, pour ne pas trop dire de bêtises. Alors c'est intéressant de voir progressivement ce qu'est devenu l'ousia, ce qu'est devenu l'acte dans la pensée philosophique. C'est intéressant de voir ça. Mais à la rigueur, voyez, à la rigueur, je suis complètement indépendant de l'histoire quand je suis en philosophie première. C'est mon intelligence et l'être. Et l'être, il est au-delà de tout devenir et donc de toute histoire. L'être n'a pas d'histoire. Ça serait beau comme tel titre. Hein. L'être n'a pas d'histoire. Ça va montrer qu'il est au-delà de toute histoire. Il est au-delà. Mais, et il spécifie mon intelligence. Il détermine mon intelligence. Mais il n'a pas d'histoire. Donc, je peux regarder une topique, c'est très très bien, mais ce n'est pas absolument nécessaire. Si mon intelligence était suffisamment pénétrante, je n'aurais besoin, pour faire ma métaphysique, que de l'être et de mon nous. L'être, je l'ai toujours avec moi, et mon nous, pas toujours. C'est la différence, si vous voulez. Par moment, je suis intelligent, mais j'existe normalement tout le temps, même quand je dors. N'est-ce pas ? Mais mon nous, à ce moment-là, il s'éteint. Il s'éteint. Soit le nous s'éteint dans la marée basse. Et puis, c'est le point de vue de l'être. Bon, alors, je peux faire de la métaphysique partout. Est-ce que je peux faire de la politique partout? Non. Pour faire de la politique, pour faire une philosophie politique, hein, ce que nous essayons de faire, pour faire une philosophie politique, la topique historique prend une importance énorme. Et ça, c'est très net. Et plus on réfléchit sur le problème, plus on voit que l'aspect... C'est pas étonnant, puisque c'est le devenir. C'est le devenir de l'homme moral. Puisque c'est la paille des biens, c'est l'éducation, puisque c'est la famille. Et tout ça, ça change. Et c'est différent selon... Alors, évidemment, il y a une interprétation philosophique à travers des faits qui sont les mêmes. Et c'est intéressant d'essayer de comprendre une topique historique, c'est pour ça que j'insiste un peu, même si ça vous semble un peu trop, ça n'a pas d'importance. C'est que je crois que c'est très important, quand il s'agit d'une philosophie politique, de voir les quelques grands moments. Or, il est bien évident que pour une philosophie politique, les deux premiers grands moments, c'est Platon et Aristote. Ça, c'est sûr. Troisième moment, c'est ce que nous allons voir maintenant tout de suite, ça va être l'éclatement de la polis. Ce qui est très intéressant pour nous. Là, c'est très intéressant de voir l'éclatement de la polis. Pensez pas à la polis, hein. C'est évident, si vous avez l'éclatement de la polis, télégramme. Hein. Vous voyez, j'ai commis ce meurtre, éclatement de la polis. Alors vous voyez bien, n'est-ce pas ? Alors, l'éclatement de la polis, de la communauté politique. C'est l'éclatement de ça. Ça, c'est la première chose. Et nous assistons à ça avec les stoïciens. C'est très intéressant de voir ça. La philosophie stoïcienne est la première philosophie qui va être une philosophie universelle. 3 siècles avant Jésus-Christ. La distinction entre barbare et grec va disparaître. Et on regardera l'homme. Non pas la nature humaine à la manière d'Aristote, on regardera les individus. On regardera la collectivité. On regardera l'homme existant. C'est ce qu'on va regarder. Alors, C'est intéressant, vous voyez, c'est pour ça que je crois que ceux qui s'intéressent à ça, je comprends très bien, c'est peut-être pas le moment, surtout pas en première année, en seconde année de philosophie, croyez bien, il faut du temps avant de pouvoir faire une philosophie politique. Ça, on peut se spécialiser tout de suite, mais si on veut rester au niveau philosophique, ça vient en dernier lieu. C'est très curieux. Ça vient en dernier lieu. Et ça doit venir en dernier lieu. Et je comprends très bien que ça doit venir en dernier lieu à cause de cette intégration, vous voyez, philosophie de l'histoire. La philosophie de l'histoire n'a d'intérêt qu'au niveau politique. Au fond, c'est la politique, la philosophie de l'histoire. C'est la philosophie du devenir humain. Et la philosophie du devenir humain, elle prend ses formes politiques diverses. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant et c'est important de le voir. Alors, ceux qui s'intéressent, je crois, encore une fois, je ne peux pas vous le dire d'une façon absolue, mais toujours, je crois que ce livre de Jean-Jacques Chevalier, Histoire de la pensée politique, est paru à Payot, 2 tomes, le premier de la cité-État à l'apogée de l'État nation monarchique, et puis le second tome qui vient compléter jusqu'à nos jours. Alors nous allons voir rapidement, vous comprenez, on ne peut pas tout voir, hein. Je ne peux pas vous donner la philosophie de tout ce qui est donné ici. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre le passage d'Aristote à Machiavel. Alors, nous prenons l'avion, vision aérienne, alors on ne voit pas les détails, mais on voit les grands tournants, on voit les grands fleuves, vision aérienne. Parce que vous comprenez que d'Aristote à Machiavel, il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées. Mais je prends exprès les deux, parce que ce sont, au point de vue topique historique, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'il y a deux positions diamétralement opposées. Aussi bien Aristote qu'à Platon. C'est une troisième position d'un type très particulier. Il y en aurait d'autres à prendre, hein, nous allons voir tout de suite. Alors, ce qu'on constate habituellement, la mort d'Aristote en 322, puisque nous avons parlé de sa politique et que la politique implique les enterrements, n'est-ce pas ? Forcément, c'est le conditionnement, vous comprenez ? Le conditionnement de l'homme, le devenir de l'homme, il est terminé par la mort. Tandis que la métaphysique, elle n'en parle pas. Elle n'a pas parlé de la mort en métaphysique. C'est dit en 2 mots. Tandis qu'en politique, ça joue énormément. Ça joue beaucoup en politique. Parce que la mort, c'est la mort de la famille, c'est sûr. C'est la sépulture, c'est tout le point de vue religieux. Alors vous savez très bien que les traditions religieuses s'enracinent dans la sépulture. Et on voit le degré religieux d'un État dans la mesure où la sépulture joue encore un rôle. Le jour où la sépulture ne joue plus aucun rôle, on peut dire que le sens religieux a complètement disparu. C'est un indice, et qui est très intéressant, du reste. Parce que c'est très intéressant de remarquer ça. La mort fait partie de la tradition religieuse. Parce que la sépulture fait partie de la tradition religieuse. La mort, on peut la traiter aussi en philosophie du vivant, n'est-ce pas ? C'est sûr, on la traite en philosophie du vivant, la philosophie du vivant étant entre deux. Mais c'est évidemment en politique et en éthique, et le lieu propre de la mort, c'est la politique. Ça, c'est sûr. Un traité de mort sur la mort doit se voir en politique. Ça se voit en famille. C'est comme ça que ça se traite, que voulez-vous. Remarquez que c'est tout le temps comme ça. La mort prend son sens dans la famille, en dehors de la famille. Le point de vue religieux. Le curé est lié à l'enterrement. Vous savez bien. Je me souviens, il y a quelques années, quand j'allais à Louvive, à Briançon, et que de temps en temps, j'avais le temps de me promener, et qu'il me voyait comme ça, il me disait « Ah, il y a quelqu'un de mort !» C'est évident, si le curé marchait pour aller. Donc c'était nécessaire. Le prêtre est lié à la mort. Et, parce que oui, quand quelqu'un meurt, on appelle vite le prêtre pour l'enterrement, ou pour les derniers moments. Alors, il est lié à la mort, toujours. C'est un sens religieux, ça. Alors, nous verrons la fois prochaine, nous entrerons, un vol rapide, et puis nous entrerons un tout petit peu, vous prenez Machiavel, ça a l'avantage, c'est que même quelqu'un qui n'a pas fait de philosophie peut tout comprendre.
Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus.